Vous écoutez On lit pour vous.
Une année de recul des droits et libertés. Un texte de Pierre Trudel, publié le 9 décembre 2025 dans Le Devoir. L'année 2025 a fourni l'occasion de prendre la mesure de la fragilité des droits et libertés. Tant au Québec que dans d'autres gouvernements, les dirigeants ont multiplié les mesures qui en entrave l'exercice. S'agissant des droits des peuples autochtones, la professeure Karine Miller explique que le projet de constitution québécoise, examiné actuellement à l'Assemblée nationale, s'en tient à des généralités à l'égard des droits des Premières Nations. Pourtant, le Québec est lié par la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Ce texte oblige l'État québécois à développer avec les peuples autochtones les politiques qui touchent à leurs droits, de respecter leur consentement et leur autonomie, de même que leur droit d'accéder aux services publics sans discrimination. Oublier les droits des premiers peuples est presque une habitude. Les droits et libertés ne s'exercent pas dans les nuages. Leur effectivité dépend souvent de la capacité d'agir d'organisations disposant de moyens. L'introduction de dispositions interdisant à des associations syndicales ou à des ordres professionnels de dépenser des fonds pour contester la validité des lois devant les tribunaux, met les droits fondamentaux à la merci du bon vouloir gouvernemental. Comme plusieurs autres, les professeurs Noura Karazivan et Martine Valois expliquaient, dans un mémoire soumis à l'Assemblée nationale, que le respect effectif de l'État de droit s'oppose à des mesures qui entravent la capacité concrète des justiciables de s'adresser aux tribunaux pour faire trancher la validité constitutionnelle d'une loi, d'un règlement ou d'un acte du gouvernement. Ce même projet de constitution énonce que l'État protège la liberté des femmes d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Mais une telle disposition pourrait être abrogée par n'importe quel gouvernement majoritaire qui n'aurait que faire du droit des femmes. Depuis l'invalidation aux États-Unis de l'arrêt Roe versus Wade, des mesures ont fragilisé le droit des femmes d'accéder aux soins de santé. Le moment est mal choisi pour insérer dans les lois québécoises une prétendue garantie qui pourrait devenir une cible pour les groupes hostiles aux droits des femmes. Le recul des droits et libertés se manifeste par la perversion de leur sens. Aux États-Unis, l'utilisation des pouvoirs présidentiels pour gracier les amis et pourchasser les adversaires politiques a fait reculer l'idée que les États-Unis sont gouvernés par un régime dans lequel tous sont soumis aux mêmes lois, ce qu'on désigne sous le nom d'État de droit. La semaine dernière, l'agence Science Presse rapportait que le gouvernement américain annonçait son intention de refuser des visas aux vérificateurs de faits et modérateurs de contenu en ligne. L'État de droit est au plus mal lorsqu'un gouvernement se met à définir la vérification des faits et la modération en ligne comme des actes de censure. Au nombre de ceux qui peuvent éclairer leurs semblables avec des faits vérifiés, il y a les universitaires. En déclarant la guerre aux universités, accusées d'antisémitisme et de wokisme, le président Trump leur a expédié une liste de mots interdits dans leurs recherches et leurs demandes de subventions. On accuse les universités d'inaction contre ce qui est abusivement désigné comme de l'antisémitisme. En confondant les critiques des politiques du gouvernement au pouvoir en Israël avec l'antisémitisme, plusieurs se forgent un prétexte pour saper les capacités de débattre dans les espaces des universités. Les minorités LGBTQ+, sont aussi dans le viseur de plusieurs mouvances populistes. Désormais, il est risqué de se présenter aux douanes américaines avec un passeport indiquant une mention « autre » à la case « sexe ». À ces violations caractérisées des droits que l'on croyait pourtant acquis, se sont ajoutées les politiques négationnistes sur l'esclavage et la ségrégation raciale. Le tout accompagné d'actions de réhabilitation de figures historiques qui se sont illustrées par leurs actions racistes. Au niveau international, des crimes de guerre demeurent impunis. De possibles crimes de guerre ont été recensés en Ukraine, dans la bande de Gaza, et même dans les eaux internationales voisines du Venezuela. Mais les instances internationales demeurent impuissantes puisque des États font fi des conventions mises en place au cours du XXe siècle pour tenter d'assurer le respect de la dignité humaine. Pire, les juges chargés d'appliquer le droit international sont traqués comme des criminels par des États qui ne reconnaissent pas l'autorité de ces instances. À ces chasses aux juges, lancées sans la moindre inhibition par des régimes autoritaires, s'ajoutent les dénonciations répétées de ce que certains désignent comme le gouvernement des juges. Par exemple, en France, les mouvements politiques qui se trouvent contrariés par l'application des lois n'ont pas hésité à s'en prendre aux juges qui avaient pour tâche d'appliquer les dispositions adoptées par ces mêmes élus quelques années auparavant. Aux États-Unis, les juges qui rendent des décisions qui déplaisent au président reçoivent des menaces et des invectives. On ne doit jamais tenir les droits fondamentaux pour acquis. Poussés par des bouffées populistes, des gouvernements n'hésitent plus à multiplier les mesures afin de compliquer l'examen judiciaire des lois qui paraissent incompatibles avec le respect des droits et libertés garantis par les chartes. Les droits et libertés sont à la merci des humeurs de dirigeants promptes à considérer que leur vision du gros bon sens et de notre mode de vie sont des justifications suffisantes pour rayer les droits de ceux qui les dérangent. C'était une année de recul des droits et libertés. Un texte de Pierre Trudel, publié le 9 décembre 2025 dans Le Devoir.
Intelligence, un texte de Jean-François Lisée paru le 3 décembre 2025 dans Le Devoir. Selon les scénarios les plus optimistes, l'intelligence artificielle, IA, aura atteint le niveau d'intelligence d'un humain en 2026. L'étape suivante sera d'atteindre le niveau de l'intelligence combinée de tous les humains. Certains pensent que cela pourrait arriver dès 2027. D'autres affirment qu'il faudra compter plusieurs années. Encore faut-il avoir une mesure fiable de ce qu'est l'intelligence de tous les humains. Il s'agit d'une cible mouvante et selon les dernières données, elle ne bouge pas de manière à donner beaucoup de fil à retordre à l'IA. Plutôt que de progresser, elle régresse. L'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, mesure la littératie, c'est-à-dire la compétence nécessaire pour lire et comprendre un texte, et la numératie, la capacité de procéder à des calculs. Dans son dernier rapport, elle compare pour 27 économies développées l'évolution de ces compétences chez les adultes au cours des 15 dernières années. On mesure de beaux progrès en Finlande, au Danemark, en Suède. On constate du surplace au Canada ou en Allemagne, mais en moyenne, ça baisse. Un peu en France, plus en Autriche et aux États-Unis, plus encore en Corée du Sud et en Pologne. Il est futile de tenter de trouver une explication unique au phénomène, mais la présence croissante des écrans dans la vie des adultes jeunes et vieux et, plus récemment, pour les étudiants, de l'IA elle-même, mérite examen. La lecture et l'écriture sont, en soi, de la gymnastique pour les neurones. Le recul de la lecture et du temps de lecture est une tendance lourde en Occident depuis 15 ans, et plus encore chez les jeunes, et encore plus chez les garçons. La chute de l'écriture s'ensuit, d'autant qu'une autre option est désormais disponible. Une récente étude mesurant l'activité neuronale d'un échantillon d'étudiants américains a montré que ceux qui avaient écrit eux-mêmes un essai sur un sujet donné présentaient un gain cognitif moitié plus important que ceux qui l'avaient fait écrire par ChatGPT. Or, l'utilisation de l'IA pour produire des textes est devenue, à l'école, à l'université et au travail, un phénomène qui s'est installé de façon fulgurante depuis seulement 2 ans. Aux États-Unis, des universités doivent désormais offrir à leurs nouveaux étudiants des cours de rattrapage en mathématiques avant de les intégrer dans leur classe normale. Il leur manque des notions qui auraient dû être intégrées au milieu du secondaire. La pandémie et les écrans se sont combinés pour faire reculer leur niveau de numératie. Les accommodements introduits pendant la pandémie pour rendre le passage plus facile et éviter les échecs n'ont pas été rehaussés depuis, établissant un niveau d'exigence générale plus bas pour tous. Pourquoi s'en faire? Entend-on, les futurs ingénieurs vont simplement demander à l'IA de faire les calculs pour eux? Qui va faire confiance à un diplômé en aviation qui ne peut résoudre un problème sans demander à l'ordinateur de lui donner la réponse? Demandait un prof de maths de Stanford, Brian Conrad, au magazine The Atlantic. La prémisse voulant que les concepts de base n'aient plus besoin d'être appris conduit au règne de l'idiocratie. Le pire n'est pas toujours sûr. Il est toujours temps de se ressaisir. La première chose à faire était de bannir les écrans des écoles. Il aurait été préférable de le faire il y a 10 ans, mais on y est enfin arrivé. D'autres mesures urgent pour en réduire l'impact hors école, dont l'interdiction des réseaux sociaux aux 16 ans et moins. Il faut applaudir la décision du Québec et de plusieurs autres gouvernements d'introduire des périodes de lecture quotidienne en classe. Les stratégies déployées par les universités pour endiguer l'utilisation de l'IA pour la production de travaux sont encore embryonnaires, mais indispensables. Une technique, l'essai médiéval, oblige à n'aborder un sujet qu'avec des sources antérieures à l'an 1500. L'IA n'y arrive pour l'instant pas. Un autre est de faire écrire le travail en classe sans accès à Internet et avec des copies papier, des textes qu'il faut commenter. Au-delà du contexte scolaire, où les variables peuvent être contrôlées par l'enseignant, il n'y a guère de moyens structurants dans la société en général pour freiner le déclin de la lecture et de l'écriture. Tout repose sur l'encouragement. Le succès de la journée d'achat d'un livre québécois, la popularité des salons du livre, y compris en région, font partie des outils nécessaires, mais non suffisants. On m'a récemment fait part d'une anecdote qui m'a fait sourire. Les jeunes hommes lisent peu, c'est connu. Pour certaines, cela les rend moins intéressants. Une technique de tri des prétendants potentiels a donc émergé, me dit-on. La jeune fille demande au jeune homme « Qu'est-ce que tu lis en ce moment ?» Le balbutiement n'est pas une bonne réponse. Si la technique s'étend, elle peut devenir, pour la littératie, un puissant levier. Allez, les filles, on compte sur vous. C'était « Intelligence », un texte de Jean-François Lisée, paru le 3 décembre 2025 dans Le Devoir.
La mairesse qui a fait la paix avec l'homme qu'elle était. Un texte d'Hélène David, paru le 18 septembre 2025 dans La Presse. Avant d'être élue mairesse de Sainte-Adèle dans les Laurentides en 2021, Michèle Lalonde était présidente de la Chambre de commerce et de tourisme de la municipalité. Femme d'affaires ayant d'abord travaillé dans le monde des communications, elle a eu une vie engagée socialement et politiquement. C'est du côté de son identité que Michèle Lalonde a souffert et franchi bien des obstacles. Citation : Quand je fréquentais le collège classique de garçons, j'avais accepté de jouer un rôle féminin dans une pièce de théâtre. J'ai adoré ça, jouer un rôle de fille. Fin de citation. C'est un peu à ce moment, raconte-t-elle, qu'elle a en quelque sorte pressenti ce qui l'attendait. Or, elle ne l'a pas tout à fait réalisé à l'époque. Citation : J'étais beau garçon, avec une barbe et les cheveux longs. Je pognais beaucoup. Alors, pour me prouver que j'étais viril, j'ai collectionné les conquêtes féminines. Fin de citation. Ce n'est que plusieurs années plus tard, alors mariée depuis presque 20 ans, qu'elle s'est inscrite, au début de la quarantaine, à un groupe de discussion autour de l'identité sexuelle. C'est à partir de ce moment qu'elle a entamé une réflexion sur sa véritable identité de genre, qui l'interpellait de plus en plus impérativement. Citation : Avec les plateformes d'échange, dit-elle, je me suis rendu compte que je me sentais plus femme qu'homme. Mais je ne voyais pas ça du tout comme possible pour moi. Je suis mariée, j'ai une femme, une carrière. Fin de citation. Au début de sa démarche de transition, Michèle Lalonde adoptait un style plus féminin lorsqu'elle était seule le soir à la maison. Et au fil des mois et même des années, elle s'est octroyée de plus en plus souvent la permission de sortir vêtue dans sa nouvelle expression de genre. Une connaissance du couple dit alors d'elle, citation, « Lorsque Michèle est habillée en homme, il a le dos courbé. Lorsqu'il s'assume en femme, il marche droit et avec confiance. » Fin de citation. Celle qui travaille dans le milieu de la vente double son chiffre d'affaires lorsqu'elle assume son identité féminine. Citation, « J'étais tellement plus moi-même. » Fin de citation, précise-t-elle. Son épouse la soutiendra tout au long du cheminement qui culminera en 2007 par son opération de réassignation sexuelle. Michèle avait alors atteint l'âge de 60 ans. Citation : La première fois que je suis allée me promener dans le parc en face de la maison de convalescence où je séjournais et que quelqu'un m'a saluée en disant « Bonjour, madame », ça m'a beaucoup émue. Enfin, je me sentais vraiment moi-même. Fin de citation. Ce long cheminement a duré une 20aine d'années et a été marqué par du soutien psychologique, sexologique et même un suivi professionnel pour féminiser sa voix. Le parcours de cette femme, qui a maintenant 77 ans, peut nous en apprendre beaucoup sur le vaste sujet de l'identité de genre. Un enjeu qui, à travers les siècles, les cultures, les âges et les recherches scientifiques, n'a cessé de faire réfléchir, débattre, mais surtout de mettre à l'épreuve tant d'humains aux prises avec des pulsions et des émotions trop souvent cachées ou refoulées. Les bureaux de spécialistes, psychiatres, sexologues ou psychologues, depuis longtemps, écoutent et aident les personnes souffrant de mal de vivre en lien avec leur identité et leur sexualité. Michèle Lalonde a dû relever le défi d'aller au fond d'elle-même et de se plonger dans les méandres douloureux de son mal-être pour laisser tranquillement émerger ce qui n'attendait qu'à être reconnu. Une traversée d'un désert où le mirage s'est trop longtemps substitué à la réalité intérieure qu'on ne saurait voir, une identité de genre qui ne peut pas se montrer. Michèle Lalonde a été opérée à 60 ans. Elle a donc vécu 60 années de questionnements, de démarches hésitantes, de cachettes, de honte et de peur, 60 années à vivre dans un corps qui lui était étranger. Durant sa campagne pour devenir mairesse en 2021, elle a trouvé le courage de dévoiler publiquement son parcours identitaire en réponse à un journaliste qui lui demandait quel était le geste le plus courageux qu'elle avait fait dans sa vie. Citation. C'est d'avoir décidé un jour de changer de sexe. Fin de citation. Contrairement à ce qu'elle craignait, elle a alors constaté que cette révélation ne lui nuisait pas. Elle lui a même probablement fait gagner des votes. Citation. Quand les gens me disaient que j'avais eu du courage de traverser ces changements, je répondais « ce n'est pas du courage, c'est de la survie ». Fin de citation. La survie dont parle Michèle Lalonde, c'est le réflexe de choisir entre la mort de soi à petit feu ou le désir de vivre et d'assumer le plus vrai de son identité. C'est une femme authentique, déterminée, transparente et généreuse que j'ai rencontrée cet été. À quelques années de ses 80 ans, elle demeure active et engagée. Elle a annoncé récemment qu'elle ne se représentait pas pour un deuxième mandat pour mieux se consacrer, par des conférences et la publication de sa biographie, à aider ceux et celles qui ont à faire face aux enjeux qu'elle a elle-même affrontés. Le premier mot qui me vient en pensant à son parcours, respect. Patrick Taillon, qui a fait partie du comité de sages sur l'identité de genre, écrivait récemment dans une chronique, citation, « Reconnaître cette identité ne suppose pas de tout comprendre, mais de se mettre à l'écoute. » Fin de citation. Écouter, c'est ce que j'ai fait avec humilité, en ayant le sentiment de vivre une rencontre unique et profondément humaine. Je termine par un poème que Michèle Lalonde a écrit et accepté de me présenter. Il dit tout de sa transition et de l'immense chemin psychologique et identitaire parcouru. Au lieu de renier son passé, elle a réussi à en faire un allié et une partie importante et structurante de sa vie. Métamorphose. Elle dormait là au fond de lui, craintive de se manifester et prendre vie, et lui la sentait sans vouloir la délivrer, habitée par ses peurs et son insécurité. Il savait qu'il ne pouvait la garder longtemps encore et devait obligatoirement la délivrer de ce corps en se faisant lui-même harakiri pour ne pas sombrer dans la folie. Puis, la métamorphose s'est opérée, il lui a cédé la place et donné liberté. Elle voulait le faire sombrer dans l'oubli, lui enlever ce qui lui restait de vie. Puis, au fil de sa croissance, en elle prit de plus en plus confiance pour accepter qu'il était une partie d'elle qui faisait qu'elle était si belle. Elle fit la paix avec ce passé qui accepta qu'elle soit libérée. Sa haine devint reconnaissance pour ce geste d'amour engendrant sa naissance. C'était « La mairesse qui a fait la paix avec l'homme qu'elle était », un texte d'Hélène David, paru le 18 septembre 2025 dans La Presse.
Madame Marthe, un texte de Kim Thuy, publié le 31 décembre 2025 dans le Journal de Québec. Je ne sais plus si Madame Marthe portait des lunettes, mais je me souviens de son regard, à la fois chaleureux et hésitant, derrière le comptoir de la cafétéria de l'hôtel Castel. On était une famille de 7 Vietnamiens, prenant notre premier petit-déjeuner au Québec, plus précisément à Granby. On tentait de comprendre ce que contenaient les boîtes multicolores rangées sur un plateau en plastique. Patiemment, Madame Marthe nous les montrait une à une jusqu'à ce que mon père reconnaisse le mot « rice » sur une boîte de Rice Krispies. À sa suite, on voulait tous la même, croyant qu'elle contenait du riz cuit à la vapeur. Madame Marthe est alors allée en chercher d'autres dans sa réserve pour répondre à la demande de tous les autres Vietnamiens qui attendaient derrière nous. À notre grande surprise, le riz n'était ni chaud ni collant. J'ai quand même pris ma première cuillerée bien remplie avec empressement.
Les grains secs, devenus pâteux dans ma bouche, m'ont presque étouffé. Personne de notre groupe ne savait qu'il fallait y ajouter du lait. Nouveau mot. Madame Marthe, vêtue de son uniforme couleur caramel bordé de brun chocolat, une robe zippée du cou jusqu'à la mi-cuisse, prenait le temps de me faire découvrir, matin après matin, de nouveaux mots. Saucisse, jambon, pancake, patate, gruau, fèves au lard, sirop d'érable. Et puis, elle a présenté mon père à Claude, son fils et à sa belle-fille. Le couple l'a engagé pour faire le grand ménage dans les écoles le week-end. On accompagna mon père à son travail. Une autre occasion d'entendre le Québécois parler. Aussi, nous n'avions pas de gardienne. Mais Claude et sa femme ne parlaient qu'en langue des signes. Nos mains ont appris à dire bonjour et à nettoyer les tableaux sans laisser de traces. À l'heure du lunch, ils nous organisaient des courses dans le couloir fraîchement lavé par mon père. Un jour, Madame Marthe nous a invités chez elle. Le vent soufflait fort à l'extérieur, mais nous étions assez nombreux pour rapidement réchauffer sa maison sur roues. « Pâté chinois », disait-elle avec son sourire habituel. On était très touchés par son effort de nous préparer un plat asiatique, mais on ne reconnaissait pas le goût du ketchup. Après le souper, Madame Marthe transformait la table à manger en un joli lit comme par magie. Une fois de passage à Granby, j'ai cherché la trace de Madame Marthe. Je l'ai retrouvée, seulement quelques mois après son décès. Encore aujourd'hui, 47 ans plus tard, il m'arrive parfois d'ouvrir une boîte de Rice Krispies en son hommage. Quand je passe devant un camping, mes yeux cherchent une roulotte, la maison de Madame Marthe. J'aimerais pouvoir lui dire en français que j'ai déjà eu, moi aussi, des cheveux à la garçonne comme elle, que ses dents doublées sont devenues très tendance au Japon et que son câlin a laissé dans mon oreille droite le son des battements de son cœur. Elle était grande, Madame Marthe, voire grandiose. C'était Madame Marthe, un texte de Kim Thuy, publié le 31 décembre 2025 dans le Journal de Québec.